Histoire de voir, histoire au pluriel, une émission sur les révoltes, luttes et résistances populaires, avec des militants, témoins et acteurs du mouvement social, des écrivains, des chercheurs, des artistes. Rendez-vous tous les mardis en direct de 13 à 14 heures ou en différé sur lacledesondes.fr. Histoire de voir, histoire au pluriel.
Chers auditeurs, chères auditrices, bonjour. Bienvenue dans notre émission Histoire de voir, histoire au pluriel. Nous sommes donc réunis avec des habitués de notre émission Histoire de voir, Vincent Taconnet, le rédacteur intérimeur, comme il se définit, de la revue L'Ormée, la publication du secteur culturel du PCF de Gironde, Florent Viguier et Abdulrahman Kalouf, accompagnés d'Élise Moniaud, qui sont à la fois écrivains, hommes de théâtre, femmes de théâtre, artistes, qui viennent nous entretenir de le prochain événement qui se déroulera le 17 et 18 janvier, c'est-à-dire dans quelques jours, au Temple du Ha, à Bordeaux, qui s'intitule Régistère. Alors, un journal communiste, un temple protestant, mais qu'y a-t-il de commun, me direz-vous? Eh bien, hier et aujourd'hui, de protestation et de résistance, les combats sont toujours d'actualité. Un autre point commun dans cette émission du jour, c'est une réflexion autour de qui était Agrippa d'Aubigné. Il fait l'objet d'un article de Vincent Taconnet dans le dernier numéro de L'Ormée. Agrippa, comme chacun le sait ou pas, fut un acteur, un témoin direct des guerres de religion. Compagnon d'Henri IV, il se brouilla avec lui par fidélité à ses combats et ses convictions. Il se brouilla avec lui quand Henri IV estimait que Paris valait bien une messe. Alors un radical, quant à la fois, un dur, un extrémiste diront certains, voire un terroriste comme on fait l'amalgame aujourd'hui. Il n'en fut pas moins conscient des ravages et des conséquences effroyables des guerres qu'il dénoncera dans ses ouvrages, comme nous l'expliquera Vincent. Mais pourquoi le mot « régisteur » C'est nos trois invités qui nous l'expliqueront. Alors le pourquoi du titre, vous l'avez compris, régisteur, ça n'a rien à voir avec la définition anglo-saxonne du registre, mais plutôt de la résistance. Ils nous expliqueront le pourquoi du titre, le thème de l'actualité de ce propos, présentant une lecture musicale théâtralisée dans le cadre de l'ACAT, qui est l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture, une petite sœur d'Amnesty International, avec l'évocation de la mémoire de Marie Durand, qui restait enfermé 38 ans au XVIIIe siècle à Aigues-Mortes, dans la tour de Constance, avec ses amis et convictions religieuses protestantes. Ils font un spectacle, une lecture sur ce thème, autour de lettres que Marie Durand a écrites au cours de son enfermement, où elle n'a jamais renié sa foi. Deux rendez-vous vous sont proposés pour aller écouter cette lecture musicalisée. Les 17 et 18 janvier à 20h au Centre culturel du Ha, 32 rue du Commandant Arnoux à Bordeaux, c'est gratuit. Et puis nous pourrons échanger, discuter autour de cette résistance, de ce registère incarné par Marie Durand et joué entre autres par Élise Moniaud. Mise en scène, Abdulrahman. À ce sujet, Abdulrahman nous parlera un peu de la Syrie dont il est originaire et des liens et des parallèles que l'on peut faire entre l'intolérance vécue par Marie Durand hier et la libération des prisonniers politiques de ce régime ONI. Mais vous le savez, la musique est toujours présente dans Histoire de voir, Histoire au pluriel. Alors un poète des temps modernes, Jean Ferrat, cite Agrippa d'Aubigné dans une chanson que vous connaissez sûrement, Un air de liberté, écrite au moment de la libération de Saïgon et de la déroute américaine, qui s'en prend à Jean d'Ormesson qui critique cette libération de la ville de Saïgon. Alors laissons Jean Ferrat nous introduire dans notre émission du jour avec Un air de liberté.
Les guerres du mensonge, les guerres coloniales, c'est vous et vos pareils qui en êtes tuteurs. Quand vous les approuviez à longueur de journal, votre plume signait 30 années de malheur. La terre n'aime pas le sang ni les ordures, Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant. Ah, monsieur d'Ormesson, vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimie, allongés sur les rails, nous arrêtions les trains pour vous et vos pareils. Nous étions la vermine sur qui vos policiers pouvaient taper sans frein. Mais les rues résonnaient de paix en Indochine. Nous disions que la guerre était perdue d'avance et 100 000 Français allaient mourir en vain contre un peuple luttant pour son indépendance. Oui, vous avez un peu de ce sang sur les mains. Vous osez déclarer qu'un air de liberté flottait sur Saigon. Avant que cette ville s'appelle ville chimie, après 30 ans de feu, de souffrance et de larmes, des millions d'hectares de terre défoliées, un génocide vain perpétré au Vietnam, quand le canon se tait, vous continuez. Mais regardez-vous donc, un matin dans la glace, bâton du Figaro, songez à Beaumarchais, il saute de sa tombe en faisant la grimace. Les maîtres ont encore une âme de valet.
Vous avez dû reconnaître un air de liberté de Jean Ferrat, et ce n'est pas un hasard puisque nous allons parler de Théodore Agrippa d'Aubigné avec Vincent Taconnet, qui vient ici fort gentiment nous présenter l'Ormée de cœur, fin novembre 2022, un sujet qui fait que l'émission d'aujourd'hui existe, à savoir que Agrippa d'Aubigné, qui est un protestant qu'on pourrait qualifier de radical, tu nous expliqueras un petit peu, que certains aujourd'hui, parlant de radicalité, extrémisent et les mettent du mauvais côté de l'histoire. Hein. Alors que, il avait un parcours qui se situait pendant les guerres de religion. Merci d'abord, Vincent, d'être venu, une fois de plus. Je vais te laisser la parole pour que tu nous présentes un petit peu qui était cet Agrippa d'Aubigné et pourquoi tu as fait cet article.
La première raison, qui est une raison presque hypocrite, c'est que c'est un poète et un combattant de la région Aquitaine, même s'il a terminé ses jours en Suisse, mais précisément parce qu'il y était quasiment comme exilé. En revanche, il est né à Pons, donc tout près de chez nous, tout près de Bordeaux, et évidemment, il a cette caractéristique d'être à la fois un très grand poète, reconnu universitairement, mais en même temps assez fortement ignoré malgré tout, dans la mesure où, bien sûr, quand on pense aux poètes du XVIe et du XVIIe en France, spontanément, on ne pense pas à Agrippa d'Aubigné, sauf pour signaler qu'il s'agit d'un poète ou qu'il s'agirait d'un poète engagé, ce qui est absolument vrai. Mais ce qui est aussi totalement incomplet, puisque bien évidemment, il a écrit des poèmes d'amour, il a écrit une histoire, il a produit un nombre incalculable de vers, et donc on ne peut le réduire à un poète engagé, même si toute sa vie, en tant qu'humain, il a été engagé, et engagé dans les guerres de religion, comme homme de guerre, et dans ces guerres de religion, engagé du côté protestant, ce qui, bien sûr, explique en grande partie qu'il ait été occulté comme poète par rapport à d'autres, puisque, bien sûr, la religion dominante, après des moments de guerre violente, durable, la religion dominante est restée en France la religion catholique.
Il était tellement... Alors, le mot radical, c'est revenir à la racine, hein, dans sa définition. Il a mené pas mal de batailles, y compris dans notre propre secteur. Quand Henri IV a décidé, en disant « Paris vaut bien une bonne messe », de rallier, en fin de compte, le catholicisme, il n'a pas du tout accepté. Il a fait partie du courant protestant qui a refusé cette trahison, même. Il va jusqu'à parler de trahison. Et donc, il va mener une campagne politique qui va faire que, comme tu le disais tout à l'heure, il est obligé de s'enfuir de France parce qu'il est menacé de manière réelle par le retour justement des ultras catholiques. Alors c'est un homme de conviction, un radical comme on dit, qui frise l'extrémisme ou le terrorisme diront certains aujourd'hui, parce que le thème de l'émission c'est résister hier, résister aujourd'hui, d'où le fait qu'on convoque Agrippa d'Aubigny en tant que protestant, et puis aussi parce qu'il y a une deuxième partie dans l'émission, nous allons aussi parler, je regarde Abdulrahman Elis qui sont à côté de moi et qui vont nous parler dans le cadre d'une lecture sur une autre résistante qui était Marie Durand, qui a été enfermée 37 ans pour ses convictions. Voilà, alors je reviens à Agrippa d'Aubigny.
Ce personnage, je trouve qu'il est tout à fait intéressant de le mettre en relation avec cette Marie Durand, dans la mesure où, bien sûr, leur point commun, c'est le protestantisme et leur avoir subi la répression des protestants, bien sûr, à une période différente, à une époque différente, mais de ce point de vue, il y a une continuité et il va de soi que pour nous, plusieurs siècles après, on pense à Agrippa d'Aubigny, on pense à Marie Durand, mais on pense aussi à la révolte des Camisards qui a été si superbement évoquée par René Alliot dans un film qui s'appelle Les Camisards dans les années 70.
Oui, parce que bon, les fameuses dragonnades naissent de là, c'est-à-dire que l'autorité oblige en fait la population à accueillir des dragons dans leur foyer pour qu'ils soient tout à la fois observateurs et puis surtout pratiquent la répression si ces personnes continuent à pratiquer la religion prétendue réformée, comme on dit aujourd'hui. Alors bien sûr, il y a des tas de parallèles et c'est pas un hasard si dans le journal de l'Ormée, je rappelle, c'est le journal de la Fédération de la Gironde du PCF, le journal de la publication culturelle, eh bien ces deux éléments sont là parce que le type de l'émission c'est résister hier, résister aujourd'hui, protester hier, protestant hier, protester aujourd'hui, et puis résister hier, résistance aujourd'hui, parce qu'on est aussi dans un moment, peut-être, de l'histoire du pays, je ne sais pas si quelqu'un voudra s'exprimer là-dessus, où les idées noires, négatives, par rapport aux libertés, deviennent de plus en plus évidentes. Et c'est intéressant donc de voir cette confrontation entre le passé et le présent. Et on parlera donc du spectacle. Je vois Abdulrahman qui oscille du bonnet, qui n'a pas d'ailleurs. Voilà, donc c'est pas un hasard si l'armée a parlé de ça, je disais, par rapport à la situation même, y compris d'aujourd'hui.
Bien sûr que non. Mais avant d'en venir à la situation d'aujourd'hui, ce que je crois et ce qui me paraît important, c'est que cette figure d'Agrippa d'Aubigny est devenu pour les protestants et au-delà des protestants, pour tous ceux qui se retrouvent dans la protestation contre les injustices, Agrippa d'Aubigny est devenu une figure, tellement une figure que, par exemple, Jean-Pierre Chabrol, qui a été un écrivain très populaire et un homme de radio éminemment important dans les années 70, a écrit un roman qui s'appelle « Le bouc du désert ». Et « Le bouc du désert », c'est non seulement le titre de son roman, mais le nom que se donnait, pour réussir à publier ses œuvres, un certain Agrippa d'Aubigny. Il l'est signé LBDD, « Le bouc du désert ». Et donc, Chabrol a souhaité faire l'éloge de ce personnage et montrer son importance en donnant à son roman le surnom d'Agrippa d'Aubigné lorsqu'il signait de ses initiales. Au-delà de cela, bien sûr, ce qui est important, c'est que finalement, cette tradition du protestantisme luttant contre l'oppression, elle s'est poursuivie dans le siècle suivant, on en reparlera, et elle se prolonge avec les Camisards et se prolonge aussi avec les traditions de lutte qui sont extrêmement fortes et extrêmement présentes dans le pays cévenol, là où justement Jean-Pierre Chabrol est né.
Alors, bah, écoute, c'est très bien de faire ce parallèle-là. Moi, j'en voyais un autre parce qu'on a écouté tout à l'heure la chanson de Jean Ferrat. Et Élise est tout à fait d'accord pour nous lire un extrait justement de cette chanson qui cite d'ailleurs des paroles de... Ça s'appelle Les Tragiques, hein, c'est ça, hein, Vincent? Ah,
oui.
Tu acquiesces, ouais.
Le recueil poétique le plus célèbre.
Alors, je te laisse la parole.
La terre n'aime pas le sang ni les ordures. Agrippa d'Aubigné le disait en son temps. Votre cause déjà sentait la pourriture, et c'est ce fumet-là que vous trouvez plaisant.
Alors c'est donc Jean Ferrat qui a écrit ce poème et qui l'a chanté, on l'a entendu tout à l'heure. Alors il y a un autre personnage qui a lui aussi été inspiré par Agrippa d'Aubigné, Darius Milhaud. Il est issu d'une vieille famille juive de Provence, hein, qu'il est originaire du Comtat Venaissin. Il est né en 1892 à Marseille et mort à Genève en 1974. On le considère comme un des compositeurs les plus prolixes de toute l'histoire de la musique, rien que ça dis donc. Il a composé pour tous les genres musicaux, il est un ami de Cocteau, de Claudel, de Gide, de Neguer, Satie et d'Aragon, autre célèbre personnage. D'ailleurs, c'est un artiste engagé, il participe aussi à la rubrique du journal communiste Ce Soir, dirigée par le dit Aragon. Au début de l'occupation considérée par les nazis et les collabos comme représentants de l'art dit dégénéré, il a pu se réfugier aux USA et il va devenir professeur pour survivre en enseignant la musique, entre autres, au jazzman Steve Brubeck. On l'écoutera tout à l'heure dans notre émission. Take Five, ça dit quelque chose sur moi à plein de gens. Et au fondateur de ce qu'on appelle l'école du minimalisme musical américain, Steve Reich et Philip Glass, hein, que l'on connaît aussi beaucoup et qu'on aime bien. Là, c'est un extrait parce qu'il a écrit ça s'appelait La Tragédie humaine, hein, musique pour chœur mixte et orchestre. C'était créé en 1958, pas de traces. Alors du coup, comme Darius Milhaud a beaucoup voyagé, et notamment au Brésil, il a écrit Scaramouche, qui vont être interprétés par Manon Gali, Jorg et González Boal Hassan.
Thank you.
Alors, comme vous voyez, donc, cette chanson elle montre aussi l'ouverture d'esprit de ce Darius Milhaud, et on comprend pourquoi il est considéré comme étant le compositeur le plus prolixe. Donc, Vincent, tu voulais rajouter quelque chose ?
Oui, puisque Registère va être proposé au Temple du Hard, eh bien, on pourrait rappeler que la Saint-Barthélemy, qui a eu lieu à Paris et que tout le monde connaît comme telle, le 23 et 24 août 1572, a eu des prolongations, si je puis dire, terrifiantes en province, et évidemment plus particulièrement à Bordeaux, où le 3 octobre a eu lieu un massacre important. Je vous renvoie de ce point de vue à un travail très riche sur cette question fait par un universitaire du nom de Jérémy Foa, qui a écrit un ouvrage qui s'appelle « Tous ceux qui tombent » et qui évoque les massacres des protestants.
Agrippa d'Aubigné, lui, a eu la chance d'avoir un duel, si je puis dire, une chance relative, qui l'a éloigné de la nuit de massacre de la Saint-Barthélemy, et il a eu la vie sauve grâce à cela. Pour terminer sur lui, même si on y revient dans le cadre du spectacle Registère, il y a une petite anecdote que je ne me... C'est que, bien que fâchés, Aubigné et puis Henri IV, ils ne pouvaient pas se douter que leurs petits-enfants respectifs... Alors Françoise d'Aubigné, hein, qui est connue sous un autre nom, la marquise de Maintenon, et que le descendant d'Henri IV, Louis XIV, s'unirait un siècle plus tard, en 1683. Donc ça, c'était point de vue image du monde, et ce qui me permet, en fin de compte, de faire notre transition avec nos invités, les trois autres invités, une invitée surprise. C'est sur à propos de Registère, hein, qui va être un spectacle qui va être proposé dans trois jours maintenant au Temple du Hard, hein. Plus exactement au centre culturel du Ha, hein, je le redirai à plusieurs reprises, hein, c'est 32 rue du Commandant Arnoux à Bordeaux. Alors, pourquoi Registère ? On va directement attaquer le sujet, mais avant, moi, il y a une chanson que j'adore, c'est celle de France Gall qui s'appelle « Résiste ».
Un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste.
Ce monde n'est pas le tien. Viens
Voilà, bon, je suis désolé d'imposer France Gall à mes invités, mais bon, je leur ai expliqué pourquoi, je ne vous le dirai pas à vous, parce que je ne veux pas non être trop indiscret pour moi-même. Donc France Gall résiste, et régisseur, ça veut dire, je crois, régiste, mais tu voulais répondre oui. À Vincent.
Ah non, je reviens juste un tout petit peu en arrière, effectivement, mais quand on parle de la Saint-Barthélemy et des épisodes qui suivent la Saint-Barthélemy, à Bordeaux, il y a effectivement l'étude de cet universitaire, ce qui est assez marquant, et notamment quand on pense à ce qui se passe aussi actuellement en Israël, c'est que en fait, ce massacre-là, il apparaît que techniquement, par rapport à la Deuxième Guerre mondiale et au génocide qui s'est fait contre les Juifs, c'est qu'en fait, on est tué par ses voisins. Et ça, c'est assez catastrophique. C'est-à-dire que sur la confiance dans l'humanité, c'est une difficulté. Et on retrouve un petit peu ça quand on évoque aussi Régister, hein, effectivement. Donc, c'est le parcours d'une femme, une jeune fille en fait, hein, même protestante, qui va être enfermée 38 ans, donc ça ne va pas rester jeune fille si longtemps que ça, hein, voilà, donc elle est enfermée tout juste à sa majorité. Effectivement, elle va passer quasiment sa vie entière en prison, sans autre reproche à lui faire que d'être sœur d'eux. Là aussi, hein, donc désinvisibiliser les femmes. Elle est sœur d'un pasteur. On est après la révocation de l'édit de Nantes, donc petit rappel, effectivement, hein, donc on est quand même longtemps après la Saint-Barthélemy. Henri IV, effectivement, le bon roi Henri, avait donc fait cet édit de Nantes qui était un édit de tolérance. C'est justement sur la réflexion sur la question de la tolérance, on voit que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, la tolérance, parce qu'effectivement, une tolérance, ça s'enlève. Je te tolère jusqu'à ce que... D'où le fait qu'à la Révolution française, il y aura une revendication pour dire on ne veut plus la tolérance, on veut l'égalité, voilà, l'égalité des citoyens. Et donc cette femme-là, elle, ben, elle est un peu broyée par l'histoire, et toute la question pose aussi sa responsabilité, c'est-à-dire qu'elle est broyée par l'histoire, mais elle aurait la possibilité d'abjurer, hein, voilà. Et moi, c'est un axe qui m'intéressait quand j'ai écrit ce texte sur elle. En fait, est-elle, dans le contexte aujourd'hui, c'est une résistante, c'est une militante? Est-elle une intégriste? Est-elle une terroriste? Des fois, on se dit comment on place le curseur. C'est un peu aussi, selon celui qui parle, quelle perception on va avoir de cette femme qui refuse de se soumettre quand même. Hein. Effectivement, une notion d'insoumission. Et puis dans une émission comme la tienne, Jean-Pierre, voilà, la question de l'insoumission, ça te connaît. Mais sauf qu'on n'est pas en démocratie et que ça coûte cher de s'opposer à l'autorité. Donc le texte, effectivement, aborde cette femme au moment où elle arrive en prison et avec ses cas de conscience. Et pour moi, c'était assez intéressant de confier le texte à nouveau à Abdulrahman Kalouf, d'abord parce qu'on travaille ensemble régulièrement maintenant. Je peux dire que je suis artiste associé à la compagnie Estragon. Et puis, évidemment, le parcours d'Abdulrahman, il est aussi intéressant parce qu'on est sur un sujet, moi je suis très attaché, je suis enseignant, hein, ça me fait, voilà, donc je suis très attaché aux notions de laïcité. Mais d'abord, le théâtre est une manière d'aborder justement des sujets qui sont complexes, qui sont problématiques. C'est pas nouveau, je le fais dans toutes mes pièces. Et là, aborder la question de la foi religieuse dans une société laïque, c'est aussi très intéressant. Je le dis aussi parce que c'est aussi un des axes aujourd'hui que je défends un petit peu, que je crois aussi qu'à un moment donné, pour peser sur le système, il y aura, et je veux dire, des synergies de force à faire entre les sans Dieu et les avec Dieu, parce qu'il y a des lignes de fracture qui nous opposent bien autrement que sur des croyances qui peuvent porter seulement sur une vision philosophique du monde. Voilà. Et donc Abdulrahman, vous le savez, il est d'origine syrienne, il va se représenter. Et donc lui-même, il a grandi dans une culture musulmane. Et le fait qu'il prenne en charge finalement un conflit qui n'a rien à voir avec lui entre des catholiques et des protestants il y a 400 ans, eh bien, finalement, ça fait résonance avec ce qui se passe en Syrie actuellement.
Donc je rappelle, donc on parle de Régister, c'est une lecture qui va être faite 17 et 18, c'est-à-dire vendredi qui vient là, qui sera fait au 32 rue du commandant Arnoux, c'est le centre culturel du A. Donc Régister, ça veut dire résistance, je fais ça pour les amis touristes nombreux qui vont du côté d'Aigues-Mortes. Et là, il y a une tour qui s'appelle la Tour de Constance. Et c'est avec beaucoup d'émotion que nous sommes allés en famille visiter ce lieu où elle a vécu pendant 37 ans, cette femme, reniant absolument pas sa foi. Et d'ailleurs, alors on dit que c'est d'elle, mais on n'est pas sûr, sur la margelle du puits, il y a marqué « Régisseur » sur la pierre, hein, et qui est imprimé. C'est aussi le but, une butte de promenade et autres, parce qu'avec Mort, c'est très joli. Alors ceci n'a rien à voir avec Abdulrahman et avec l'introduction que fait Florent, mais tu peux nous parler, si tu veux, de la pièce et d'autres choses. Hein.
Oui, bien sûr, avec plaisir. Bon, je suis heureux de continuer notre partenariat avec Florent Viguier. Après Antoine B, après La Foi Coloniale, on travaille sur cette lecture théâtralisée. Et c'est une commande donc avec de l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. Je suis ravi de ça. Mon rapport, comme tu as souligné, je n'ai pas de rapport convictionnel, disons, avec le sujet, puisque moi je suis compté parmi les musulmans, même si j'ai pas de foi, je suis athée, mais je suis quand même on va me compter parmi la communauté des musulmans d'une culture. Mais moi, ce qui m'intéresse en fait dans ce texte, c'est les mécanismes des résistances. En fait, il a très très bien choisi le titre Résister. Et aussi, moi je viens de théâtre, donc ce qui m'intéresse toujours, c'est le pouvoir d'incarnation d'un texte, d'un récit. Et ça, ce texte, il est vraiment, il est épais, il est dense, il nous emmène vers une autre période, une autre époque, vers un lieu très très différent. Donc, peut-être c'est la meilleure représentation d'écouter un passage de ce texte par Élise Moniaux, qui va représenter Marie Durand pendant ce spectacle et qui va nous faire voyager un peu dans la Tour de Constance.
La Tour de Constance. Un nom bien trouvé, il faut croire. Ici, tout semble figé pour l'éternité. J'en ai connu la réputation bien avant que de m'y trouver recluse. Ne suis-je née que pour y entrer? Que vouliez-vous que je devienne après que l'on m'eût pris ma mère alors que je n'avais pas 8 ans? On a déjà arrêté mon père pour se venger d'un frère recherché. Mon frère court le maquis. Sans ressources, j'ai bien essayé de survivre. Je me suis mariée pour cela. Quel autre choix pour une jeune fille sans ressources dans le monde de mon temps? Mais nous n'en avons guère profité, mon mari et moi. Nous avons été arrêtés si vite après. L'homme que j'ai épousé à l'âge d'être mon père. Arrêté en même temps que moi, c'est avec mon père qu'on l'enferme. Leurs images se confondent presque. Ne suis-je que la fille d'eux? La femme d'eux? La sœur d'eux? Aurais-je existé sans l'engagement de mon frère? Sans lui, je ne suis rien? Mon frère qui parcourait les villages pour maintenir dans nos campagnes la foi nouvelle partout opprimée? Non, bien sûr, j'ai pris ma part dans notre combat. Bien sûr que moi aussi, j'ai désobéi au pouvoir. D'ailleurs, mon mariage sans le sacrement d'un prêtre était déjà une désobéissance. Je ne suis pas innocente. Je ne veux pas l'être. J'aurais pu abjurer. Un mot d'abjuration et je sortais. Ils vont me prendre 38 ans de ma vie. 38 ans pour un silence. Mon corps, ici, va s'user et se flétrir, peu à peu, inexorablement, sans lumière et sans amour. La seule image que l'on conservera de moi est celle d'une vieille femme bigote et revêche. Une vieille femme en sursis, une vieille femme obstinée et aigrie, intégriste. Le père de toutes choses m'aidera à tenir dans ces moments de désespoir. Et vous ? Vous m'aiderez ?
Bon, beaucoup d'émotions. Élise, merci beaucoup pour cette lecture où la place des femmes s'est aussi affirmée. Hein, tu le fais bien passer de mon point de vue. Et beaucoup d'émotions, voilà. C'est dur de reprendre un petit peu là-dessus. Donc je rappelle pour nos auditeurs et auditrices qu'il s'agit de Marie Durand qui a été prisonnière pendant 37 ans à la tour de Constance à Aigues-Mortes. En fin de compte, son sacrifice n'est pas inutile puisqu'on en parle encore aujourd'hui. Les prétentions de la pièce, c'est de faire le lien entre les convictions, les combats menés. Je pensais à Mandela. Alors, pendant que tu parlais, ça m'a évoqué Nelson Mandela, qui va au-delà, en fin de compte, des réalisations ou pas, mais qui insuffle pour les gens qui sont attentifs à ces combats, une énergie aussi, dans des moments où c'est pas toujours drôle, de voir que d'autres sont passés avant et ont maintenu cette flamme et nous inspirent encore aujourd'hui. Alors je me tourne vers toi, Florent, pour réexpliquer pourquoi tu t'es intéressé à cette question-là avec Abdourahmane et Élise.
Oui, en fait, c'est vrai pour toute œuvre, en réalité, elle ne trouve une place que parce qu'elle résonne dans notre époque, sinon elle tombe dans l'oubli. Une autre femme aujourd'hui plus connue que cette personne, Marie Durand, vous avez Olympe de Gouges, vous savez, il y a un film qui est en préparation sur elle, Olympe de Gouges qui a été décapitée, donc effectivement la Révolution, et qui avait fait une déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en miroir de la déclaration des droits de l'homme, mais en son temps, elle était finalement très peu connue. Et aujourd'hui, on la désinvisibilise parce qu'elle résonne dans notre époque. Et donc ça, effectivement, c'est vrai de toute œuvre. Marie Durand n'est pas complètement inconnue, c'est-à-dire qu'elle a une maison de retraite à son nom à Bordeaux, mais ça reste effectivement très marginal si vous la mettez en miroir avec Agrippa d'Aubigné dont il a été question et encore que Agrippa d'Aubigné est peu étudié au lycée, etc. Et voilà, et après ça évidemment les figures fondatrices du protestantisme si on s'en tient au protestantisme, mais c'est là aussi où effectivement il y a une portée de l'universel dans son parcours. Et c'est aussi d'ailleurs là tout le travail du metteur en scène, et je vais lui passer aussi le flambeau, parce que justement, c'est aussi une des choses qu'incarne Abdourahmane, c'est-à-dire que l'endroit d'où je parle, il est toujours, moi c'est quelque chose qui m'interroge toujours, d'où tu parles, parce que ça résonne, ce que tu dis va être perçu aussi en fonction de l'endroit d'où on parle. Mais quand on travaille avec quelqu'un qui lui-même justement a une autre culture, une autre résonance, eh bien, on peut aussi extraire d'un parcours de vie une portée plus universelle.
Oui, effectivement, après, la Syrie est devenue maintenant un sujet d'actualité. J'essayais de ne pas faire le parallèle comme ça, parce que je trouve que c'est tellement loin, le contexte est complètement différent. Mais quand même, on ne peut pas, en fait, nous empêcher de penser à ces prisonniers politiques qui étaient libérés après la chute de Bachar el-Assad, qui est sans doute une bonne chose. Donc, même si l'après est plein d'angoisse, même si l'après est plein d'inconnus, on ne sait pas ce que c'est. Et ces libérateurs, ils ont quand même un visage qui n'est pas complètement innocent, puisqu'ils ont fait la guerre quand même pendant des années contre le régime. Mais malgré tout, en fait, ces prisons politiques qui ont tombé, ces gens qui étaient enfermés depuis des années et qui on peut retrouver le jour, on ne peut que se réjouir de ça. Donc moi, je le vois aussi en filigrane à travers le travail sur Marie Durand. Je vois tous ces visages de Syriens emprisonnés à cause de leur opinion, à cause de leur foi, parfois à cause de leur appartenance politique. Donc je suis vraiment ravi. Après, bon, je vais rendre honneur aussi à un autre artiste qui n'est pas avec nous, qui est Elisa Rochignac, qui fait en fait la moitié, puisque cette lecture théâtralisée et la proposition de Florent est basée sur deux voix, la voix de Marie Durand qu'on a entendue à travers Élise Moniaux et la voix d'un gardien et d'un multipersonnage. C'est un gardien, mais c'est beaucoup plus qu'un gardien, et qui est incarné par Elisa Rochignac, et qui est aussi guitariste. Donc elle accompagne cette lecture avec une guitare électrique. Et moi, à travers la mise en scène, j'ai essayé de faire de ça. Ça reste une lecture théâtralisée. Les comédiennes, ils ont le texte à la main, mais ils peuvent quand même nous faire voyager dans cette tour de Constance et dans ces discussions.
On vous rappelle, le spectacle a lieu le 17 et 18 janvier prochain. Ça a lieu à partir de 20h. C'est 32 rue du Commandant Arnoux. Est-ce que c'est payant ? C'est une question que je me posais.
C'est gratuit parce que c'est effectivement pris en charge par cette association dont a parlé Abdulrahman tout à l'heure, l'ACAT, l'Association des chrétiens pour l'abolition de la torture. C'est une petite sœur en fait d'Amnesty International qui est plus connue, hein, l'ACAT, en 1974 que l'association a été créée. Il y avait cette idée que justement là aussi la question de la foi ne pouvait pas s'abstraire des questions de violence faites aux hommes. Alors, de fait, les églises ont toujours milité pour la parole de Jésus. Et Jésus qui est quand même, ce que je dis souvent, les églises sont de droite, mais Jésus était de gauche. Court, effectivement. Il a un côté hippie de l'an zéro dans son parcours. Et donc, effectivement, il y a cette idée de lutter contre les violences, quelles qu'elles soient. Donc, les églises sont aussi, ont voulu se réapproprier cette question-là, à un moment donné où la société se laïcisait à grande vitesse. Et de fait, c'est aussi une manière de rappeler la place dans une société laïque, justement, des convictions religieuses. Là, on est à quelques jours aussi de la commémoration des attentats de Charlie Hebdo. Moi, j'y pense quand on fait ce genre de prestations, voilà, au mois de janvier, 10 ans après 2015. La question de la tolérance religieuse, elle passe justement par l'acceptation de l'autre, le droit, effectivement, à la satire, il n'y a pas de blasphème. Et puis, en même temps aussi, cette notion de comment on fait pour vivre ensemble, vivre mieux avec nos convictions. Et donc, que la CAT fasse appel aussi à des artistes pour justement illustrer des parcours, je trouve que c'est une très bonne manière d'aborder. Alors évidemment, on va dire que je suis jugé parti dans ces histoires-là, puisque c'est ma pièce qu'ils ont retenue pour cette fois-ci. Pour placer justement, interroger le politique, voilà. Et les artistes, nous servons à ça. Hein. C'est-à-dire que on n'est pas là pour donner des réponses, on est là pour poser des questions et poser des questions sur des sujets où parfois on n'a pas envie qu'on nous pose des questions. Donc juste les faire entendre, juste rappeler qu'on existe, voilà.
Je suis Élise Monnier, je suis la comédienne. Je voulais rebondir un petit peu sur ce personnage-là que j'ai la chance de pouvoir lire. C'est la deuxième fois que je travaille sur un texte de Florent, vu que je travaille aussi sur la foi coloniale avec la compagnie Estragon. Et je trouve que là, Marie Durand est un personnage qui est extrêmement touchant, en fait. Parce qu'on dit toujours les protestants, ils sont austères, ils sont pas rigolos, ils sont froids. Et là, eh bien, on a ce personnage de Marie Durand, cette jeune femme de 19 ans, je m'imagine, moi, à 19 ans, enfermée pendant 40 ans ensuite, toute ma jeunesse, je sors, j'ai 60 ans, c'est bon, voilà, je suis à la fin de ma vie. Et dans ce texte, Florent décrit bien tous ses doutes aussi, et qu'elle n'est pas parfaite. Qu'elle aussi, elle envie ses voisines parce qu'elles ont un morceau de pain, elles envie, elle reste très très humaine. Et c'est cette incarnation-là aussi que je trouve très touchante et qui fait tomber aussi un petit peu d'un piédestal, entre guillemets, ces figures mythiques qu'on voudrait avoir, de gens parfaits. Non, c'est pas vrai, c'est un être humain et c'est très bien. Et c'est ça qui est très très beau dans ce texte aussi, dans cette incarnation, c'est que la résistance, elle s'incarne et elle s'incarne avec des imperfections. Et des gens qui, pour autant, ne renient pas leur foi. Et pour ceux qui, entre guillemets, l'ont renié de façade, c'est parce qu'on est tous humains. Et c'est dit aussi dans le texte, tous ces parcours qu'on peut avoir sur ces croyances, sur ces convictions que l'on a au fond de son cœur, mais aussi, nous avons tous bien nos failles, nos faiblesses. Et je trouve que c'est ça qui est très joli aussi à rendre, c'est cette humanité. Il ne s'agit pas de créer des mythes déshumanisé, parce que sinon, moi personnellement, ça ne me touche pas.
Mais par rapport à ce que tu dis, Élise, effectivement, moi je reviens sur Agrippa d'Aubigné, je repense aussi en termes de parcours complexe, c'est un type hyper bagarreur, hein, ce Agrippa d'Aubigné, il est complètement instable, et je ne vous parle pas de son fils, on a parlé de sa petite fille, évidemment, mais son fils, il va commettre un féminicide, donc on sent une période très troublée. Et ça pose la question de qu'est-ce que je vais garder d'un parcours d'une manière générale. Et donc le filtre du temps permet évidemment de faire son tri, mais l'endroit où on va porter l'accent, des choses qui paraissaient acceptables à un moment donné ne le seront plus à un autre moment. Donc le purgatoire peut arriver selon les périodes de manière très très différente.
Par rapport aux lettres, même si elle n'a pas beaucoup écrit et on en a perdu, quand même elle donne ce que Élise disait, c'est-à-dire toute cette humanité en fait, à la personne qu'elle incarne. Hein, c'est un petit...
Oui, de fait, moi, je fais du théâtre documentaire. Donc, je parle vraiment d'une trame historique d'un personnage et il s'agit de le désinvisibiliser. Hein, c'était le cas, effectivement, déjà avec la foi coloniale. C'est encore le cas ici, et je pars effectivement des cris qui ne sont pas les miens, que je fais ressurgir. Elle a une langue du XVIIIe siècle, très ampoulée, et en fait, parce qu'elle sait bien écrire, elle écrit à l'époque, déjà avec un style qui, par rapport à son époque, je veux dire, on a lu quand même plus d'auteurs du XVIIIe siècle, paraît très suranné, même au XVIIIe siècle, déjà ça devait paraître un petit peu too much. Elle a, rien que pour parler de Dieu, mais alors, il y a un nombre de métaphores, le Tout-Puissant, mais le Très-Haut, le nombre de vocables qu'elle va trouver pour parler de Dieu, c'est vraiment intéressant. Et puis en fait, de fait, elle devient porte-parole de toutes ces femmes, mais justement celles qu'on ne désinvisibilise pas. Et c'est aussi... moi, c'est aussi ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que moi, je cherche à désinvisibiliser cette femme. Mais finalement, cette femme, elle existe déjà par ses écrits. Mais elle-même désinvisibilise toutes celles qui sont mortes dans une prison dont parfois on a le nom, mais parfois on n'a pas le nom, on n'a pas l'histoire. Vous vous souvenez, hein, le discours de Malraux, « Entre ici, Jean Moulin ». Et puis, il y a tous ceux derrière. Donc, ne les oublions pas, tous ces gens qui n'ont même pas eu la possibilité, justement, de se faire connaître parce qu'ils n'avaient pas les mots. C'est là aussi où on se rend compte que... Ben, alors, évidemment, là, c'est l'auteur encore qui parle, hein, mais la langue, pouvoir parler, c'est quand même quelque chose...
Eh bien, on t'a laissé parler, et puis... Donc, cette émission se termine. Elle se termine d'une manière tout à fait sympathique, puisqu'on va écouter le fameux Dave Brubeck, dont on a parlé tout à l'heure au sujet de Darius Milhaud, dans cette chanson Take Five. Alors, c'est une chanson qui est une histoire, parce qu'elle a été composée par le saxophoniste Paul Desmond. Il a écrit ça en 1959, histoire de boucher un trou dans un de leurs disques du quartet, Time Out, de Dave Brubeck. Paul Desmond a donné tous ses droits d'auteur à la Croix-Rouge. Il n'y croyait pas à cette musique, ce qui représente aujourd'hui, en 2012, puisqu'on aime parler d'argent maintenant dans une société, 6 millions de dollars en 2012. Vous voyez, donc c'est une bonne œuvre d'ailleurs qui va dans l'esprit de notre rencontre d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on peut partager, même y compris sur des sujets très délicats. Et puis.
On va avoir 6 millions de dollars pour.
Je sais pas, mais bon, il faudrait que quelqu'un vous. Il y a une expression anglaise qui dit take five, qui veut signifier pause de 5 minutes, hein, take five. Ou c'est une mesure à 5 temps. Moi, j'ai toujours compris que c'était se serrer la main, tout simplement. Serrer les 5 doigts, enfin, se serrer. Alors, avant de lancer Take Five, il y a juste Vincent Taconnet qui voudrait dire quelque chose à propos d'un auteur qu'il a cité tout à l'heure.
Donc, je voulais revenir sur Jean-Pierre Chabrol, qui a été, avant les années 50, après des années de résistant, journaliste à l'Humanité, mais aussi dessinateur. Et il s'est rendu célèbre, si je puis dire, malgré lui, pour avoir dessiné une sorte de lutte symbolique contre l'esclavage et l'injustice qui a été répercutée dans l'affaire des 16 de Basse-Pointe. Ah. Et si j'en parle, c'est ouais. Parce que à partir du mois de mai, quand le musée d'Aquitaine aura fini ses travaux, va avoir lieu une exposition des années d'après-guerre. Et il y aura toute une partie sur l'affaire des 16 de Basse-Pointe, qui est une affaire absolument extraordinaire, qui s'est close à Bordeaux par le triomphe d'un acquittement total de ces 16 incriminés qui pourtant étaient jugés à Bordeaux pour qu'ils soient condamnés.
Donc je vous remercie toutes et tous. Et puis donc là, on va écouter Dave Brubeck pour Take Five. C'est parti. Thank you.
Histoire de voir, histoire au pluriel, c'est fini pour aujourd'hui. Et nous vous remercions de votre écoute. Un grand remerciement à nos invités, honneur aux dames. Élise Mougnot, d'abord, avec sa lecture qui nous a beaucoup touché hein, sur la vie de Marie Durand, Pierre, dans le spectacle qui a lieu le 17 et le 18 janvier prochain au Temple du Ha. À partir de 20h, c'est 32 rue du Commandant Arnoux, vous pourrez la retrouver. C'est une lecture musicalisée, mise en scène par Abdulrahman Kalouf, ici présent. Florent Viguier en est l'auteur. Et puis un grand merci à Vincent Taconnet, à la fois amical et de résistance pour aujourd'hui, puisqu'il est un homme de plume lui-même, et qu'il est rédacteur, comme il explique, intérimeur, à la revue de l'Ormé, qui est la publication du secteur culturel du PCF de Gironde. Donc merci à toi aussi, Vincent. Et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur La Clé des Andes. Alors, la souscription pour La Clé des Andes, c'est en partie fini, mais ça peut continuer. Donc vous pouvez, en allant sur le site laclédesandes.fr, retrouver notre petit cochon tirelire et puis d'y mettre votre obole. On en a bien besoin, comme toutes les associations qui ont beaucoup de mal à vivre aujourd'hui, mais qui sont indispensables à la vie culturelle, politique et démocratique de notre beau pays. À la semaine prochaine, toujours sur La Clé des Ondes. Histoire de voir, histoire au pluriel, c'est fini pour aujourd'hui.